frères et sœurs bien-aimés, nous fêtons aujourd'hui le baptême de notre Seigneur Jésus le Christ, qui est le premier acte de sa vie publique. Nous l'avons suivi au temps de la Nativité, avec les bergers issus du peuple d'Israël, et avec eux nous nous sommes réjouis, Dieu a envoyé enfin le Messie, le Sauveur que l'on attendait. Au jour de l'Épiphanie, dimanche dernier, nous nous sommes réjouis de ce que ce Sauveur ne concernait pas seulement un peuple, le peuple élu, le peuple choisi d'Israël, mais par la venue de ces mages étrangers au peuple de l'Ancienne Alliance, c'est bien toutes les nations qui sont venues se prosterner devant celui que la bienheureuse Vierge Marie a présenté à l'adoration des mages. Si avec la pauvreté des bergers, nous avons accueilli le Christ descendant dans la pauvreté de nos crèches intérieures, avec les mages, nous lui avons offert nos présents, autant de bonnes actions, de bonnes œuvres qui, à bien y réfléchir, viennent toujours de Dieu. Suite à ces récits de la Nativité, il y eut pendant 30 années la vie cachée de notre Seigneur, une vie humble, une vie familiale, toute quotidienne, comme nous la vivons ici-bas, faite de joie familiale, de temps de travail, d'actions de grâce, de pleurs et de deuil. Mais voilà qu'âgé de 30 ans, notre Seigneur Jésus le Christ sort de la vie cachée pour commencer une vie publique de 3 années où il va passer de village en localité, de cité pour annoncer la bonne nouvelle. Mieux que cela, il ne fera pas seulement que l'annoncer, la bonne nouvelle du règne à venir, il va manifester par sa prédication, il va également manifester par les signes miraculeux qu'il va opérer, qu'il n'est pas seulement un Messie venant des hommes, mais qu'il est davantage Dieu. Dieu qui vient à notre secours, qui en guérissant tel aveugle, nous permet d'ouvrir nos regards à la foi du monde à venir. En rendant la mobilité à tel paralysé, voilà que le Seigneur manifeste que ce qui nous paralyse, c'est le péché dont il vient nous sauver. Tout commence symboliquement sur les bords du Jourdain. Le grand patriarche Moïse, qui a conduit le peuple de l'esclavage à la liberté des enfants de Dieu, chemine vers une terre promise par Dieu. Du haut de la montagne, Moïse contemple cette terre enfin promise par Dieu. Elle est là, devant lui. Elle a une frontière naturelle, le Jourdain. Mais voilà qu'il n'est pas permis à notre patriarche Moïse d'entrer dans la terre sainte. Voilà que Moïse meurt et est enterré. Nous retrouvons notre Seigneur Jésus le Christ qui est le nouveau Moïse. Lui va entrer dans l'eau du Jourdain, car il est le grand prêtre de l'Alliance nouvelle et que cette terre promise par Dieu est avant tout la terre promise de la vie éternelle en paradis. Le Jourdain, voilà le lieu où Jean-Baptiste prêche à temps et surtout à contre-temps la venue du Dieu Messie. Devant les injustices de son temps, comme devant celles du nôtre, car il y a des choses qui ne changent pas dans le règne du péché, c'est toujours l'égoïsme des hommes et l'orgueil au lieu de l'humilité qui triomphe dans ce monde. Eh bien voilà Jean-Baptiste qui annonce que le Messie doit venir, que le Messie est bientôt là et qu'il faut alors préparer son cœur en se détournant des mauvaises œuvres et en se donnant au règne de Dieu qui vient se manifester. Voilà pourquoi beaucoup des contemporains de Jean-Baptiste viennent l'écouter dans le désert dans lequel il prêche. Ils entrent avec le Baptiste dans le Jourdain. Et le Baptiste, prenant de l'eau, symboliquement les lave de leurs fautes. Mais il précise qu'il n'est pas le Messie, que va venir derrière lui celui qui est plus puissant que lui, plus fort que lui, celui qui, avant lui, était déjà, même de toute éternité. Voilà alors que notre Seigneur Jésus paraît sur les bords du Jourdain. Il demande, comme tous ces pécheurs qui veulent changer de vie, à recevoir le baptême. Jean-Baptiste hésite, Jean-Baptiste refuse. Comment, Seigneur ? Vous voulez recevoir le baptême pour le pardon de vos péchés ? C'est plutôt moi qui ai besoin d'être baptisé par vous. Et le Seigneur Jésus d'entrer dans les eaux du Jourdain pour recevoir le baptême. En effet, Jean-Baptiste avait raison d'être interloqué par cet acte au commencement de la vie publique de notre Seigneur. Il est reconnu par le Baptiste comme l'agneau de Dieu qui vient enlever les péchés du monde. Mais si cet agneau est déjà lui-même pécheur, comment pourrions-nous être sauvés du péché ? En effet, notre Seigneur Jésus le Christ est l'agneau. Chaque année, pour la fête de Pâques, la famille pieuse juive offre un agneau en sacrifice pour le pardon de ses fautes. Mais cette fois-ci, ce n'est plus un agneau qui vient de nos troupeaux. C'est l'agneau que Dieu a choisi, son propre Fils. Il s'est fait homme tout en demeurant Dieu pour que nous, les hommes, puissions aller le rejoindre là-haut, en paradis. Voilà que c'est l'agneau qui vient enlever les péchés en entrant dans les eaux du Jourdain. Le Seigneur Jésus n'est pas lavé d'un péché qu'il n'a pas. Il prend sur lui symboliquement tous nos péchés. Il est l'innocent pour toutes les fois où nous sommes coupables. Il est la vertu incarnée pour toutes les fois où nous nous laissons aller au vice. Voilà notre Seigneur, l'agneau victorieux. Il prend sur lui tous les péchés. Et il sort alors des eaux du Jourdain pour nous conduire vers la terre promise, vers la vie éternelle. Au moment de son baptême, il s'est passé quelque chose que l'on attendait, la confirmation céleste qu'il s'agissait bien du Fils de Dieu. Dans les récits de la Nativité, Dieu le Père, qui nous envoie son Fils par le Saint-Esprit, ne s'est pas manifesté directement. Il a envoyé les anges pour annoncer aux bergers l'heureuse nouvelle. De même, par cette étoile mystérieuse, voilà que le bon Dieu avait envoyé à ceux qui ne parlaient pas le langage de la foi un signe pour qu'ils aillent adorer et reconnaître celui qui l'envoyait. C'est au moment de sa vie publique que la voix de Dieu le Père se fait entendre alors que le ciel se déchire, que l'Esprit Saint descend et repose sur notre Seigneur Jésus le Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui se trouve toute ma joie. La joie du monde à venir, la joie de l'humanité enfin libérée du règne du péché, la joie du règne de Dieu qui vient établir alors un règne de paix, de justice et de miséricorde. Voilà la Trinité Sainte manifestée dans ce récit. La Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ce Dieu que nous adorons, qui vient à notre secours, voilà celui qui est l'agneau qui vient enlever tous les péchés. Le Jourdain est ce fleuve qui vient se jeter dans une mer que l'on appelle la mer morte parce qu'elle se trouve 700 mètres en dessous du niveau de la mer. De même, le péché nous conduit à la mort. De même en était-il des eaux du Jourdain dans laquelle on venait se laver. Elles conduisaient dans cette mer morte. Mais le Seigneur vient ouvrir un chemin dans ce Jourdain que le peuple aussi avait passé à pied sec pour entrer en terre promise. Il vient ouvrir devant l'impossible du monde la possibilité du salut. Voilà donc déjà cet agneau victorieux portant sa croix qui vient nous sauver de nos péchés. À lui, nous confions toutes nos intentions de prière pour chacun des membres de nos familles, pour nous-mêmes, que nous puissions nous convertir et puisse Saint Jean-Baptiste nous assister en cela. Nous lui confions tous ceux qui traversent des épreuves, tous ceux nombreux qui affrontent la maladie et ses ravages, un handicap, un temps de convalescence. Nous confions aussi à cet agneau de Dieu tous nos fidèles défunts pour que la mort ne triomphe pas d'eux, mais qu'ils puissent vivre de cette vie éternelle qu'il est venu acquérir au prix de son sang. À lui, l'agneau de Dieu qui vient se donner à nous dans la Sainte Communion, que soit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, ainsi soit-il.